Interview, événements, cinéma, actualité, vous êtes bien sur Web Région, www.webregion.fr.
Animateur de télévision et acteur, Georges Belair sait tout faire et il le fait avec le sourire et la bonne humeur. C'est un plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Georges.
Bonjour.
Alors Georges,
plaisir d'être avec vous aussi.
Oui. Eh bien écoutez, le plaisir est partagé.
Est partagé.
Vous avez été élevé dans une famille d'artistes, votre papa d'ailleurs était peintre, et j'ai noté que vous avez commencé par des cours de mime avant de tenter votre chance à New York. C'était pas osé comme Paris ?
Oh, c'était la folie des 18 ans. C'était surtout, je voulais absolument rentrer à l'Actors Studio. À l'époque, c'était le fantasme absolu d'aller côtoyer ce professeur qui s'occupait de Marilyn Monroe, de Paul Newman, de Marlon Brando et tout ça. Donc, je faisais de la pantomime depuis l'âge de 16 ans et je passais dans un cabaret rive de gauche. Mes parents n'étaient pas au courant, je faisais les murs de chez moi et je gagnais de quoi me payer le taxi pour rentrer à 2h du matin et à l'école le lendemain matin. Et c'est grâce à la pantomime que j'ai été engagé sur le France et j'ai pu, comme ça, gagner New York et y rester 2 ans.
Alors, vous êtes un animateur.
Donc, c'est grâce au mime.
Oui, c'est grâce au mime que vous êtes arrivé en fait à New York, quoi.
En fait, exactement. Donc, c'est sans parler, finalement, parce que le pantomime, c'est dans le grand silence. J'ai réussi à aller découvrir la grande pomme New York. C'était magnifique.
Alors, vous avez donc commencé par le mime, donc vous étiez muet, et on vous retrouve après, mais justement, en offrant votre voix aussi bien à la télévision qu'au théâtre, puisque animateur de télé, on vous a également vu dans Les Mariés de la 2, Les Jeux sans frontières ou encore Surprise sans prise. Mais moi, je me souviens de vous d'ailleurs dans Médecin de nuit. C'était, je pense, au début de votre carrière, tout ça. Quand vous voyez la télé d'aujourd'hui, quel regard vous portez sur la nouvelle génération de divertissement?
C'est différent. Mais la société est totalement différente. Les gens de ma génération comprendront de quoi je parle. Il y a d'autres valeurs, il y a une autre morale, il y a une autre façon de vivre. C'est la même planète et encore qu'elle change beaucoup, malheureusement. Mais si vous voulez, le concept du plaisir, le concept de la culture, le concept de sortir ou pas, le concept de s'éclater dans une émission de télé, ça évolue avec le temps, avec les gens qui font la télé, c'est-à-dire les producteurs qui sont de jeunes producteurs et qui font selon leur goût, le goût d'aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a une différence avec ceux qui ont connu la télé d'avant. Mais moi, je suis pas tellement tourné vers le avant. Je trouve qu'il faut rester aujourd'hui et penser à l'avenir. Et vous savez, c'est le public qui décide s'il regarde ou pas. Tant que le public regarde une émission, l'émission reste. Quand le public en a marre, il ne peut plus la regarder, l'émission s'en va. Donc, c'est au public d'être exigeant et c'est au public de regarder ce qu'il a envie. On n'est pas forcé de regarder la télé. Hein.
Non, mais bon, est-ce que le public, on ne lui force pas un petit peu la main aussi, de temps en temps, avec certaines émissions?
Bien sûr, on lui force la main, bien sûr. On lui force la main, on lui apprend à aimer une certaine chose et pas l'autre. C'est un problème culturel, c'est un problème qui remonte très haut. Je n'aurais pas un grand débat sur la culture, mais c'est vrai qu'elle est malmenée en ce moment. C'est un peu, c'est-à-dire, on cherche le buzz, on cherche à faire la phrase qui va faire que tout le monde en parle le lendemain. C'est une compétition terrible parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de chaînes. Moi, quand j'ai fait de la télé en tant qu'animateur, il y avait 2-3 chaînes. Quand on a fait Médecin de vie, vous parliez tout à l'heure, il y avait 2 chaînes. Ah, donc, oui. On faisait un Français sur 2 regardait Médecin de vie. On faisait 25 millions, tous les chiffres qui feraient tomber dans les pommes, même la une. Enfin, c'est normal, il y avait 2 chaînes. Le lendemain, on parlait soit de nous, soit de l'autre, et tout. Bon. Là, il y a une compétition, il y a aussi la Covid qui est passée, les gens sortent beaucoup moins, ils préfèrent être heureux, donc très bien, ils ont une autre façon de voir les choses, tant mieux. Ça les a peut-être un peu secoués par rapport à la télé, je ne sais pas. Moi, j'ai l'espoir dans l'intelligence du public. Je ne suis pas du tout stressé, je pense que tout ça va se corriger avec le temps et on va retrouver peut-être, et je l'espère, des valeurs plus intéressantes, plus culturelles quand même.
Espérons-le, Georges. Alors, on vous a vu au cinéma et dans des séries télévisées, on en parlait il y a quelques minutes. En fait, vous n'avez jamais cessé de travailler durant toutes ces années. C'est quoi le secret de la longévité pour un acteur?
Déjà, avoir la santé, puis c'est d'avoir peut-être plusieurs... une façon différente de voir le métier. Il ne faut pas se cantonner à une chose, parce que la vie, elle est multiple. On a plusieurs vies dans une vie. C'est une façon de remplir le temps. La vie, c'est quoi? C'est entre la naissance et la fin. Il y a un certain nombre d'années. Et chacun essaie de remplir ses années le mieux possible. Alors, il y a le travail dedans. Ce n'est pas forcément toujours une bonne nouvelle, parce que c'est dur, parce qu'il n'y a pas de travail, etc. Et nous, on a la chance formidable de faire un métier qui peut être multiple. Moi, je suis auteur, je suis metteur en scène, je suis compositeur, je suis producteur, je suis acteur. Vous savez, c'est le même métier, en fait, et que je fais d'une façon différente selon les demandes. Là, je vais repartir en tournée au théâtral avec Daniel Evenou dans 6 mois, et je me fais une joie de retrouver Daniel sur scène. Voilà, c'est des rencontres et c'est beaucoup de plaisir. Mais je dois tout ça, moi, à mon prof de New York, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais totalement paralysé de trac. Le fait d'imaginer que je pouvais parler m'aurait tué tellement j'étais timide. Et j'ai rencontré ce gars, ce type qui m'a changé ma vie, qui m'a donné un cours pendant 2 ans. Et ces cours vont changer ma vie. Quand je suis rentré à Paris, je parlais, j'avais envie, et j'ai eu la chance de tourner avec Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, dès mon retour des États-Unis dans Les Pétroleuses. Et puis après, j'ai tourné avec Jean-Paul Belmondo, Pierre Brasseur, dans Les Mariés de l'an 2. Donc, ça m'a permis de rentrer dans la profession vraiment sur un tapis royal, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi pour la suite. Et puis j'ai joué dans des pièces qui ont été mythiques.
Mythiques. Justement, on va en parler dans un instant, puisqu'en fait, votre nom est beaucoup associé au théâtre, avec votre premier rôle en 69 dans une pièce de Wolinski. Vous avez fait le calcul un petit peu du nombre de rôles que vous avez interprétés depuis, non?
Au théâtre, non. Je ne veux pas compter, mais je dirais peut-être 100.
Alors, on vous a vu, bien entendu, avec Michel Roux, hein, dans Pauvre France, hein, ça c'est
oui,
ça reste
mis en scène par Michel Roux, c'était avec Jean Lefebvre.
Avec Jean Lefebvre, mise en scène par Michel Roux. On vous a vu également dans Ma femme est folle, Tout bascule, de mon avis, Olivier Lejeune. La fameuse pièce de Raffi Chart, Ma femme s'appelle Maurice. Ce sont les comédies qui vous intéressent le plus, Georges?
Ah oui, je trouve que c'est pas tellement joyeux la vie en ce moment. Et puis je trouve que, écoutez, franchement, bon, j'adore jouer des drames, j'en ai fait. J'ai eu le bonheur de jouer dans Zorro, la comédie musicale. C'était pas forcément une comédie, c'était magnifique. Avec 100 de participants, j'ai joué dans My Fair Lady, c'est magnifique, sur scène à Metz, grâce au directeur de l'Opéra de Metz. Donc ce sont des aventures. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je préfère rire. Et faire passer 1h30, 2 heures de rire au public, c'est très jubilatoire pour nous, les acteurs, et pour le public aussi. Il y a une rencontre formidable autour du rire. On rit pas assez.
En plus de 50 ans de carrière, vous auriez une anecdote à nous accorder?
Voilà, j'en ai plein. Qu'est-ce que vous avez des anecdotes? Vous rendez compte? Imaginez depuis le temps des anecdotes formidables. J'ai eu l'honneur. Des anecdotes. J'ai tourné dans un James Bond et c'était avec le géant. Vous savez, dans Moonraker, il y a le super géant là qui mesure. C'est un acteur anglais qui a les dents en fer. Et on est devenus potes pendant le tournage. C'était un type très impressionnant et on m'a demandé de le ramener puisqu'il aimait bien être avec moi et moi avec lui. On m'a demandé de le ramener le soir parce que je n'allais pas à son hôtel. Et alors, on avait une voiture où lui, il était assis derrière, tellement il était grand, et les pieds allaient jusque devant, vous voyez. Et on avait enlevé le siège à l'avant, carrément. Et moi, j'étais genre chauffeur, puisque j'étais devant. Et alors, je regrette que j'ai fait une bêtise en conduisant. J'ai pu sortir sans mettre mon clignotant du périphérique. Il y a un type fou furieux qui me court après sa voiture. Il s'arrête, il veut se battre avec moi, il hurle. Et moi, j'ai oublié complètement que j'ai le gars derrière, je sors, j'explique que je suis excusé. Et à ce moment-là, il y a Géant qui est sorti, le méchant de James Bond, Et j'ai jamais vu quelqu'un avoir aussi peur de sa vie.
Il est remonté dans la voiture, il est reparti comme il est venu.
Non, il est remonté quand même. Il a vu arriver. Il a vu arriver. Il comprenait plus ce qui lui arrivait, parce qu'il était très célèbre. Hein. C'était un acteur. J'ai un bug sur son nom, merde. Ça, c'est l'âge. Il était très, très connu. Il a fait tous les James Bond. C'était un gars très sympathique, adorable. Il était instituteur et il devait mesurer 1m45. Enfin, il faisait du 60 de pied.
Ouais, c'est pas le genre de gars qu'on embête.
Alors ça, c'est une anecdote qui nous a beaucoup fait rire.
Alors Georges, avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle de votre actualité. Vous parliez tout à l'heure donc de la pièce avec Daniel Evenoux. Comment s'appelle cette pièce? Oui. Où est-ce qu'on vous retrouve? À partir de quand?
Alors on va la date exacte. Bon, à mon avis, ça sera pas avant septembre l'année prochaine. Ça va se mettre en répétition là dans 4-5 mois. C'est une pièce qui s'appelle Le Duplex. Elle est de Didier Caron, qui est un acteur et un auteur vraiment formidable, et qui est un metteur en scène remarquable. Donc, je suis très, très, très heureux.
C'est vous qui la produisez, cette pièce?
Très, très jolie. Non, pas du tout. C'est un producteur. Et nous partons sur les chemins de France avant de la reprendre à Paris.
Eh bien, écoutez, merci Georges, et manquera pas, bien entendu, de faire écho de cette pièce quand elle sera à l'affiche.
L'écho, c'est super.
Merci beaucoup Georges, à très bientôt.
Merci à vous.
Je vous en prie.
Merci de l'accueil.